بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي توت لوان جو رميسي ما أن نوتر سينيور رب العزة كي نو ريوني سو سوار دون cette deuxième décade du mois de Sha'ban. Nous essayons de partager le temps de ce programme entre l'étude du nom d'Allah, la qualité de Al-Ma'iyya, et on essaie de garder un petit peu une portion du programme à la fin pour parler un petit peu du mois de Ramadan. Donc ce n'est pas un programme spécifique à la préparation du mois de Ramadan, parce que ça prendrait beaucoup plus de temps. On aurait pu le faire, mais je souhaitais quand même avancer un peu et compléter, pas compléter, mais avancer dans l'étude de cette qualité d'Allah qui est Al-Ma'iyya. Alors, pour rappel, l'objectif de l'étude de ce chapitre, de cette qualité d'Allah, c'est de savoir quelles sont les actions que le croyant doit accomplir pour être proche d'Allah. Et quand on est proche d'Allah, on est aimé d'Allah. Quand on est proche d'Allah, on a son aide. Allah nous guide, Allah guide nos pas, Allah nous protège. Nous protège contre quoi, Hudhayfa? Contre les difficultés, les calamités, j'aime pas trop le mot calamité, mais également Allah nous protège de prendre de mauvaises décisions, d'aller vers le mauvais chemin. Donc ces points-là, on va peut-être un peu revoir l'auteur. En fait, chaque action, il développe un peu ces différents points. Et pour rappel, la dernière fois, on avait en deux séances parlé de l'importance des invocations, des doigts. À la lumière du verset « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٍ » Et « فَإِنِّي قَرِيبٍ » ça veut dire « Je suis proche ». Allah Rabbul Izzah atteste à travers ce verset que lorsque le serviteur fait doua, Allah est proche. Et on avait pas mal développé l'importance des doua et comment il est essentiel de passer du temps dans les invocations et des doua pour nous, mais également des doua pour notre prochain. Parce que quand on fait doua pour une personne, qu'est-ce qui se passe, Rachid? Quand on fait doua pour une personne,
également.
Ce sont les anges qui sont proches de la personne, et c'est là qu'on voit toute la beauté du monde de l'invisible. Le monde de l'invisible, ce sont des choses, bien sûr, qu'on ne voit pas, on n'entend pas, on ne peut même pas ressentir. Ceux qui disent qu'ils ressentent, ce sont des imposteurs, hein. C'est juste qu'ils veulent se faire de la pub. Le monde de l'invisible, c'est un monde qui nous est totalement inaccessible, et au moment où vous faites des invocations pour votre frère ou votre sœur en islam, les anges qui se trouvent à cet instant auprès de vous, ce qui prouve également que quand le croyant fait doua, il y a des anges qui sont présents. Quand un croyant fait doua, ça peut être l'invocation que tu fais devant la Kaaba, l'invocation que tu fais chez toi, pendant le dernier tiers de la nuit. C'est-à-dire à chaque instant, à chaque moment où tu invoques ton Seigneur, tu fais doua, Allah est avec toi et Allah envoie des anges et des malaïkas. Et les anges disent Amin walaka mithlu dhalik. Amin, c'est-à-dire Allah accepte. Et Amin, ça veut dire Istajib ya Rab, la vraie définition. Oh Allah accepte. Walaka mithlu dhalik, et Allah t'accorde autant. Donc c'est ce qu'on avait un peu essayé de développer la dernière fois concernant les doigts. Et là ce soir, on essaie de développer une deuxième action qui nous garantit la proximité avec notre Seigneur Rabbul Izza. Cette deuxième action, c'est le dhikr, dhikrullah. À la lumière du hadith de lequel le prophète alayhi salat wa salam nous dit Inna Allah yaqul. C'est quoi encore ton nom?
Azim.
Hein? Azim. Non, ça ne peut pas être Azim. Hein, Hudhayfa? Comment on peut corriger le prénom? Abdul Azim. Al-Azim hu Allah. C'est certainement. Sur le passeport, c'est qui Abdul Azim?
Non.
Hein? Il faut aller faire un petit tour à la préfecture, il faut changer le nom. Abdul Azim. C'est comme, on ne peut pas s'appeler Samir ou Basir ou Qadir, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, quand on a un hadith qui commence par Allah a dit, ça s'appelle un hadith Qudsi. Donc, on cite le hadith Qudsi, le prophète dit Inna Allah yaqul, Ana ma'a abdi, idha dhakarani, wa taharrakat bi shafata. Allah Rabbul Izzah nous informe que il est, je traduis le hadith, je suis avec mon serviteur lorsqu'il pense à moi. Idha dhakarani bima'na dhikrullah. C'est-à-dire quand le serviteur fait le dhikrullah, wa taharrakat bihi shafata, et que ses lèvres, traduction approximative, ses lèvres bougent, c'est-à-dire en faisant le dhikrullah. Le hadith rapporté par Al-Bukhari, Ibn Majah, Ibn Hibban al-Hakim, le hadith est mashallah costaud, c'est authentifié. Ce qu'on retient à travers ce hadith, c'est ce que nous ne savions pas. Quand on fait le dhikrullah, on a l'impression, on pense que c'est une petite action. C'est une action qui n'engage pas beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, donc c'est une action plus ou moins tranquille. Si on devait fixer l'échelle des a'mal saliha, on mettrait le dhikrullah. Bah, c'est l'impression qu'on a, hein, vraiment à la base. D'accord, tout en bas, parce que voilà, c'est pas l'aumône, c'est pas khatm al-Qur'an, c'est pas tahajjud. Mais là, on doit être conscient, là, on doit prendre conscience à la lumière de ce hadith et d'autres hadiths de l'importance de dhikrullah, c'est qu'à chaque fois que le mu'min pense à Allah, Allah est avec lui. Le hadith dit bien « Anna ma'a abdi idha ». Et le « idha », on va traduire par « lorsque ». Comme on a de le verset, quel est le verset le plus célèbre qui commence par « idha » ? Non, plus simple. « Idha ja'aka, idha ja'a nasrullahi wal fath ». Lorsque le serviteur pense à Allah, Allah est avec lui. Et ça, cette partie-là, on ne le savait pas. Et ça, ça nous permet de donner de l'importance au dhikrullah et ça doit nous motiver à faire le maximum de dhikrullah. Et c'est là que c'est bien parce que l'auteur dit que prends conscience aux croyants que lorsque tu invoques ton Seigneur, Allah est avec toi. وَهَذِي الْمَعِيَّةَ تَقْتَضِي et cette proximité avec Allah, ça t'apporte النَّصْرُ et النَّصْرُ c'est l'aide. On parlait d'idha جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. C'est-à-dire que quand tu donnes le dhikrullah, Allah t'accorde son aide. Quand tu fais un travail, dis bismillah, pense à Allah pendant que tu fais ton travail et tu as l'aide d'Allah Rabbul Izza. An-nasru, at-ta'yid, ce sont des synonymes. En français, il n'y a pas de mots différents pour différencier an-nasru, at-ta'yid, wal-i'ana. Mais en arabe, il y a leur spécificité et on ne va pas rentrer dans ces détails. At-ta'yid, Allah t'accorde, Allah t'assiste. Al-hifz, Allah te protège. C'est-à-dire quand le croyant fait le dhikrullah, il est sous la protection d'Allah. Wal-i'ana, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est proche de An-Nas, Allah t'accorde son aide. Wal-muhabba, Allah t'aime. Il n'y a rien de plus gratifiant que de savoir que tu es aimé par ton Seigneur. Et une des actions qui nous permet d'être aimé par Allah, c'est donc le dhikrullah. Wal-tawfiq, c'est un très beau mot ça. Tawfiq, c'est l'acceptation. Allah t'accepte pour cette bonne action et Allah t'accepte pour d'autres bonnes actions. Wal-kifaya. On a vu ça, le kafi. Allah te suffit. Allah te protège et Allah te suffit. Wal-hidaya. La guider. Allah te guide pour les bonnes œuvres. Guide tes pas, te permet de rester dans le droit chemin. C'est un peu long, hein, l'auteur a cité pas mal de choses. Wal-tasdid. At-tasdid, quand on parle de as-sadad, Allah te donne la fermeté. C'est un peu comme à l'istiqam. Allah te permet de rester ferme. Ou al-qurb. Al-qurb, c'est Allah te rapproche de lui. C'est ce que nous recherchons. Tout ça, j'ai compté, ça fait neuf sifat, neuf qualités, neuf choses, neuf vertus dont nous bénéficions lorsque nous faisons le dhikrullah. Tous, j'allais dire, tout simplement. Tu es assis, appuyé contre un poteau d'un masjid et tu fais on appelle nous le tasbih, ton dhikrullah, Allah t'accorde tout ça. Maintenant les mufassirin, les muhadithin disent que quand tu fais le dhikrullah, à la lumière de ta concentration dans le dhikrullah, et en fonction de la présence de cœur, de la dévotion, et de la prise de conscience sur l'importance des mots que tu prononces, tu auras une certaine lumière. Donc l'auteur dit, quand tu fais le dhikrullah, ne te contente pas de juste citer Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Essaie de penser vraiment ce que tu es en train de prononcer. Quand tu dis Subhanallah, tu dois ressentir cette pureté. Allah Rabbul Izzah. Allah est pur, Allah au-dessus de tout, de toute sa création. Quand tu dis Alhamdulillah, tu dois ressentir de la reconnaissance. Tu dis Alhamdulillah, tu penses au ni'ma qu'Allah t'a accordé, le fait d'être croyant, d'avoir la foi, d'avoir la santé, ainsi de suite. Et quand tu dis Allahu Akbar, bien sûr, tu penses à la grandeur d'Allah, à la force, à la puissance d'Allah, Rabbul Izzah. C'est ainsi, les savants disent que quand on fait le dhikrullah, si on arrive, on appelle ça istihvarul qalb, si le cœur doit être présent nous le dhikr Allah, et s'accrocher à chaque parole, chaque dhikr qu'on prononce, ça nous sera encore plus profitable. C'est là que ça fait naître al-khushu' ou al-tadallul. C'est là que la dévotion, la concentration et la soumission s'installent dans le cœur du croyant et la conviction quand on fait le dhikr Allah. Na'am. Et avec ça, sois conscient que le moment que tu passes de le dhikr Allah, Allah est avec toi. Souviens-toi de du hadith, ana ma'a abdi. Donc, sache que à cet instant, Allah est avec toi. Si le croyant prend conscience et réalise qu'à chaque fois qu'il fait le dhikr Allah, Allah est avec lui, ça lui donnera envie de faire encore plus de dhikr Allah, de passer le maximum de son temps dans le dhikr Allah. Et du coup, on se rend compte que le temps que je perds dans les embouteillages, à écouter, à regarder n'importe quoi, fais le dhikr Allah et tu as ton Seigneur qui est avec toi. Na'am. Après, si on va sur une réflexion humaine, chose qu'on ne doit pas y aller, on ne doit pas prendre ce chemin, une réflexion humaine, oui, mais imagine qu'il y a 1 milliard de personnes qui font le dhikr Allah en même temps. Allah est avec tous ces gens-là? Bien sûr. Bien sûr. Parce que le qudrat d'Allah est infini. Na'am. Deuxième point concernant le dhikr Allah, ou troisième point, c'est la meilleure tazkiyah. C'est une des meilleures actions pour te purifier, purifier ton cœur et rester éloigné du péché. Imaginez que vous êtes dans un endroit où il y a fitna, semaine commerciale ou je ne sais pas, quelle que soit la situation, et qu'on a besoin de contrôler son regard. Il n'y a pas meilleure action pour nous permettre de rester concentré et de garder le contrôle sur notre regard que le dhikr Allah. Parce que quand un croyant fait le dhikr Allah, quand tu es en train de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, il est impossible et incohérent qu'en même temps tu dis Allahu Akbar, tu regardes le haram. À moins que tu fais le dhikr sans réfléchir, c'est presque un manque de respect de faire le dhikr sans même réfléchir, prendre conscience de ce que tu es en train de prononcer comme parole noble. Donc, une des actions qui te protège contre les péchés, c'est également le dhikr Allah. Donc, ça fait partie des vertus du dhikr Allah. Na'am. Il y avait un petit sketch, une fois, j'avais vu. Ça remonte à au moins 10 ans sur les réseaux sociaux. Il y avait une scène où on montrait un arabe, un qatari ou je sais pas quoi, de son bureau, quelqu'un de très aisé. On voyait un grand bureau. C'est une mise en scène, on a compris. Il avait un tasbih, il faisait le dhikr Allah. Beaucoup de dhikr Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Et tout d'un coup, il y a un employé qui vient le voir, quelqu'un qui travaille avec lui. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça remonte. Il dit, cher et tout, je suis malade, tel membre de ma famille est malade, je ne sais plus l'histoire. Je demande l'autorisation de quitter le travail un peu plus tôt pour aller au moustachfa, pour aller à l'hôpital. Et là, la personne qui avait pourtant machin, la barbe, la panoplie complète et qui était de l'Adhikr Allah, dit que non, ça, ce n'est pas possible, tu es payé pour le travail, tu dois rester. Et puis, il y avait une petite leçon. Celui qui n'a pas de rahma pour les gens, Allah n'aura pas de rahma pour lui. Ça, c'est une leçon à retenir. Mais au-delà de ça, ce qu'on veut, on veut essayer de ramener également dans notre discours, c'est la cohérence. Il ne faut pas que la personne qui fait le dhikr Allah pense que cette action le suffit. Je fais le dhikr Allah, du coup, je suis supérieur aux autres et il n'y a pas besoin d'autre chose. Le dhikr Allah remplit ma vie, c'est mon lien avec Allah, et ainsi de suite. Rien que dans toute chose, il y a, c'est pas un juste milieu, mais il y a une cohérence. Tu fais le dhikr Allah, mais en même temps, tu agis bien avec les gens. D'accord ? Dhikr Allah, alors comment je peux formuler ça ? Comme beaucoup de bonnes actions, chaque bonne action doit être accomplie dans la globalité. C'est-à-dire que tu fais le dhikr Allah, mais cela ne te dispense pas de l'accomplissement de la salah. On est d'accord ? Tu fais le dhikr Allah, cela ne te dispense pas de rester éloigné du haram. Ça, c'est toute la cohérence. C'est pas que tu fais le dhikr Allah, mais juste après, tu fais le haram et tu te dis que non, Allah est avec moi de toute façon. Non. Allah est avec toi, mais tu respectes toutes les conditions. Après, c'est un concept, c'est toute la cohérence de notre dîn. C'est comme le hadith qui parle des 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah. Le jour de Qiyamah, je citerai un parmi ces 7 catégories, la personne qui donne l'aumône avec une telle sincérité que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite. Les savants disent que oui, ça c'est une bonne action, mais cette personne donne l'aumône avec sincérité, mais avec ça, en complément, cette personne accomplit tous ses piliers. Avec ça, cette personne reste éloignée du haram. C'est pas quelqu'un qui fait le zina, le soir, na'oudh billah, et le lendemain matin, il va donner l'aumône avec sincérité, il dit que j'aurai une place sur l'homme. Vous voyez, il y a une cohérence. Ce sont des vertus, mais qui construisent le iman de la personne et son lien avec Allah, Rabbul Izza. C'est pour ça que j'ai cité ce sketch, cette anecdote. Et voilà, une personne de l'Allah, mais qui n'a aucune rahma pour les gens qui travaillent avec lui, ou ainsi de suite, ou qui a un mauvais comportement, ce n'est pas un dhikrullah qui lui sera profitable. Avec chaque action de nous permettre de nous renforcer, de compléter notre foi et de raffermir notre relation avec Allah Rabbul Izzah. On continue, on va aller un peu plus vite, on s'est un petit peu étalé sur les détails. Dhikrullah bien sûr, mais le dhikrullah doit être conforme à la sunnah. Le dhikrullah doit être conforme à la sunnah. Ça c'est un point essentiel que je ne vais pas développer, mais il faut être conscient que le dhikr que nous prononçons et la façon de le faire doit être conforme à l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Des fois, ça m'attriste de voir certains gestuels qui n'existent pas dans la sunna. Je ne vais pas vous le citer. Il y a des gens qui ont pris l'habitude, après chaque salat, de faire certains gestuels qui sont précédés de dhikr et qui font ce que vous êtes en train de me voir faire, comme ça, et ainsi de suite. Et ils se disent que non, mais tellement l'ana a enseigné, a dit que, tel bouzouk a dit que. Quand tu accomplis cette action, prends conscience que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a propagé la mission, ya ayyuha rasulu, balligh ma unzila ilayka min rabbik, qui a propagé sa mission pendant 23 années, pendant les 13 années de propagation à Makkah et les 10 années à Madina, il n'a jamais fait ça. Abu Bakr al-Siddiq, du temps où il était sahaba avec le prophète sallam, et pendant son khalifa, jusqu'à sa mort, ne l'a jamais fait. Omar ibn al-Khattab ne l'a jamais fait. Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, aucun sahaba. Donc, un bouzouk ou un alim qui vient combien de siècles après, il apporte une action que le prophète ne savait pas. C'est-à-dire, il faut être cohérent. Il faut que nous réalisons que notre dîn, c'est wahi. Notre pratique de la religion, c'est wahyun min Allah. Nous pratiquons conformément à ce que notre Seigneur nous a révélé et avec l'enseignement de le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans n'importe quel dhikrullah, que ce soit la parole prononcée ou la façon de le faire, si nous ne retrouvons pas la trace de la sunna ou de les versets du Coran, c'est une action qui n'est pas conforme. Allah nous permet de rester dans le droit chemin, de le salat al-mustaqim. Et je complète avec, et puis on va passer pour une petite introduction pour le mois de Ramadan. Le dhikrullah, c'est ce que ton cœur réclame. Ton cœur pour sa stabilité, ce qu'on appelle maintenant l'équilibre psychologique, mais j'en parle pas dans cette terminologie équilibre psychologique, on va plutôt dire équilibre spirituel ou besoin spirituel, pas d'équilibre, besoin spirituel. Le cœur a besoin de dhikrullah. Et quand un cœur ne pense pas à Allah, c'est-à-dire quand la créature ou le serviteur ne pense pas à Allah, Rabbul Izzah, il y a un vide dans le cœur. Et des fois on dit que c'est le spleen, c'est la mélancolie, la tristesse. En fait, c'est que ton cœur ne pense pas à Allah, Rabbul Izzah. Et ça, c'est nécessaire pour nourrir ton iman. Et notre Rabb, Rabbul Izzah, nous révèle « Ala bi dhikrillahi ». C'est uniquement avec ça. « Tatma'innul quloub ». Nous recherchons tous le tama'nina, la tranquillité, l'apaisement du cœur. Cela s'obtient par le dhikrullah. Qu'Allah, Rabbul Izzah, nous permet de comprendre ces quelques paroles. On n'a rien dit de nouveau. Nos adhkars, on continue de les faire. Et justement, quand je prenais l'exemple des gens qui rajoutent des choses, si on veut suivre la sunna dans les adhkar après la salat, ça nous prendrait 15 minutes après chaque salat. C'est-à-dire que yakfik, ce que le prophète nous a enseigné, c'est amplement suffisant. Et c'est là qu'il y a la lumière, plutôt que de rajouter d'autres choses qui n'ont pas été enseignées par le Habib, alayhi salatu wassalam. Et puis bon, il y avait un petit point, après c'est trop de détails, je ne vais pas vous encombrer avec trop d'informations. On a peut-être entendu le hadith qui dit qu'une action qui est meilleure que telle action, telle action, telle action, qui est même meilleure que l'aumône, c'est le dhikrullah. On a entendu ce hadith. Là aussi, il y a un principe. Le ilm se comprend dans sa globalité. Parce que ce hadith doit être connecté avec toutes les autres révélations, tout ce que le prophète nous a enseigné, pour qu'on le comprenne dans sa globalité. Les savants disent que le dhikrullah est meilleur que l'aumône, mais c'est en fonction des circonstances. Imagine, tu es dans une situation où la Oumma a besoin de toi. La masjid, où il y a un projet où il y a vraiment besoin qu'on aide et qu'on apporte notre contribution financière. Donc quelqu'un va voir Rachid, dit Rachid, Il y a tel souci, il y a besoin de 300, 400 euros pour compléter ce projet de rénovation de masjid ou autre chose. Il dit, ah non, moi je fais le dhikrullah, c'est nettement mieux que ce que tu me demandes. Est-ce que c'est cohérent? C'est pas cohérent comme réponse. Là, la nécessité, c'est d'aider telle personne dans le besoin et ainsi de suite. C'est-à-dire que le dîn, il faut le comprendre dans sa globalité. Pas prendre juste un texte et se focaliser là-dessus, je vais vivre avec ça. Non, nécessité donc de prendre la connaissance avec Ahl al-Dhikr, c'est-à-dire avec Ahl al-Ilm. Qu'Allah Rabbul Izzah nous permet d'être assidus dans le dhikr Allah après chaque salat. Puis, vous savez, quand on parle de bonheur, d'épanouissement personnel, de bonheur intérieur, à mon humble avis, ce qu'on ressent après la salat, quand on prend du temps, 10 minutes, 15 minutes, on fait les adhkar qui sont sunnah, et on le fait avec dévotion, avec concentration. C'est pas le subhanallah, 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 33, c'est les 33 subhanallah, ça ne doit pas prendre 33 secondes. Ça doit prendre beaucoup plus de temps. Tu le fais avec dévotion, comme l'expliquais tout à l'heure. Tu comprends quand tu dis Alhamdulillah, tu penses au ni'ama qu'Allah t'a accordé, et ainsi de suite. Et vraiment, tu le dis avec amour. Shukr lillah. Alhamdulillah, shukr. Alhamd, c'est l'équivalent de shukr. Mais c'est spécifique à Allah Rabbul Izzah. Donc, si on le fait, on fait ces adhkars avec cette présence de cœur, ce que ça t'apporte comme lumière, comme tama'nina, c'est quelque chose qui est unique, ça, c'est exceptionnel. La sakina que tu ressens dans ton cœur quand tu fais le dhikrullah après la salat, c'est quelque chose qui est magnifique. Ça te recharge spirituellement, mais pas uniquement sur le côté spirituel, même psychologiquement, ça t'apaise. Et c'est là que j'aurais aimé que quelqu'un me cite un récit qui nous prouve que le dhikrullah peut même enlever la fatigue physique et le stress. Ah, Abdurrahman a trouvé. Et le stress de la journée cumulée, les angoisses, l'anxiété. Ah, quel est ce récit? Ah, il a démarré déjà.
C'est une fois, Hadith Fatima, radiallahu anha, en particulier, le prophète sallam, il demandait à son prophète, ou à son père,
son père, alayhi salatu wassalam, de lui donner une personne pour dans les tâches quotidiennes. Naam. Tout le monde connaît le hadith, est très connu. Le prophète Sam venait de recevoir un peu d'argent venant d'une campagne et le prophète Sam distribuait. Quand le prophète Sam, on ne va pas parler de Ramadan du coup. Quand le prophète Sam recevait de l'argent, qu'est-ce qu'il faisait? Il redistribuait. Nous, quand on reçoit de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On thésaurise. On fait des économies. C'est humain. Et puis c'est humain, on dit bon, là on a un petit peu. Parfois même, on garde pour une bonne chose. Rachid, il garde un peu d'argent, il dit bon, Inch'Allah, je fais un hajj cette année. Un hajj à 11 500, ça va grimper, hein, t'inquiète. Hein. Et on garde l'argent pour faire umrah, on garde l'argent même pour un besoin familial, et ainsi de suite. Il n'y a pas de mal. C'est ton risque halal, c'est l'argent que tu as gagné. Mashallah, tu as travaillé. Mais quand le prophète, lui, gagnait de l'argent, il ne gardait rien. C'était un principe. Mais ça, c'est très compliqué de suivre ça. Vous savez, quand il y a beaucoup de gens qui parlent de l'ittiba', et nous le disons tous, suivre la sunna. Ouais. Mais quand on dit suivre la sunna, ben, pour moi, suivre la sunna, c'est barbe, machin, salat et tout. Sunna, oui. Mais suivre la sunna, c'est un mode de vie. Un mode de vie. C'est ta relation avec Allah, mais c'est également ta relation avec les bienfaits qu'Allah t'accorde. Qu'Allah t'accorde rizq, rosi, bénédiction dans la subsistance, qu'est-ce que tu en fais? Le prophète sallam nous a enseigné, enfin, c'était sa sunna, quand il gagnait, il donnait tout. Le prophète sallam n'a jamais eu d'économie, il n'a jamais eu de dinar et de dirham stocké chez lui. C'est pour ça que des fois on entend des récits, le prophète sallam a dû emprunter de l'argent avec un sahaba, ou une fois il a emprunté de l'argent avec un bédouin. Vous connaissez l'histoire, le bédouin est venu le voir, il a tiré par son linge, dit « Oh, Mohammed, rends-moi l'argent », ainsi de suite. Mais on peut se dire, le prophète demande, est-ce que c'est pas un petit peu humiliant? Mais vous savez, s'il avait gardé le butin de Badr, le butin de Uhud, même ce que les ennemis avaient laissé sur le champ de bataille, Uhud, c'est pas une défaite, hein, il faut faire attention, je me perds un petit peu. S'il avait gardé Khandaq, il avait gardé tout ça, il serait aussi riche que le roi de Faris et Qaisar, César et le roi de Perse. Parce que l'argent rentrait en quantité. Mais le prophète ne gardait rien. C'est là qu'on fait le lien avec ce que Cheikh, comment il s'appelait, Yaqub Dehlawi, enfin, on avait essayé de traduire, mais il était tellement puissant qu'on ne pouvait pas tout redistribuer. Il dit l'histoire que le prophète était une fois allongé. Je suis en train de me perdre complètement. Quelqu'un me rappelle qu'est-ce que je disais. Il était une fois allongé dans sa maison. Omar ibn al-Khattab vient le voir. Omar venait avoir un problème avec son épouse. Hein, et il va voir le prophète, il dit au prophète d'Allah, il a besoin de conseils. Le prophète s'assoit. Et là, il voit les traces sur le dos Mubarak, prophète sallam, et comment il s'allongeait sur un petit morceau de cuir sec. Et là, Omar s'est mis à pleurer, il dit au prophète d'Allah, dans quelles conditions tu vis, alors que César, ou alors le roi de Perse, dans quel, ils ont, le prophète dit au Omar ibn al-Khattab, en souriant, tu penses pas que c'est mieux? Qu'Allah les accorde ici, qu'il n'y ait rien là-haut, et que nous, Allah ne donne rien ici, qu'on garde tout. Voilà. Ce sont des textes, ça c'est mode de vie. Ittiba, c'est ça aussi. C'est dur de le dire. Moi, si je n'ai pas mon oreiller impur, je ne dors pas. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. Si on n'a pas notre confort, Allah nous pardonne. Hein. On déclare les... ceux qui vraiment font vivre la sunna, mais est-ce qu'on fait vivre la sunna réellement? Ce n'est pas juste les quelques amal qu'on fait, c'est un mode de vie. Une relation avec l'argent aussi, c'est la sunna. C'est l'ancien prophète. Bref, enfin pas bref, mais je veux dire, je reviens à ce que je disais. Quand le prophète gagnait de l'argent, il le redistribuait. Et donc, Fatima radhiallahu anha, elle va au prophète, dit au prophète d'Allah, il y a eu une entrée d'argent, donc envoie une personne pour m'aider pour les tâches quotidiennes. Et les tâches quotidiennes à cette époque, c'est un petit peu méchant ce que je vais dire, c'est pas réducteur sur le rôle de mashallah, nos mères et ceux à la maison, mais c'était beaucoup plus complexe, hein. De nos joies, il y a plus que des boutons. Hein. La machine à laver, c'est un bouton. La vaisselle, c'est un bouton. Et je veux dire que c'est beaucoup moins complexe. Mais avant, c'était prendre de la farine, c'est tahin, je ne sais pas comment on dit ça, la meule, je ne sais pas quoi. Bref, c'était du travail extrêmement physique, extrêmement difficile. Et Fatima, elle avait les mains complètement abîmées. Normalement, ça devait être une princesse. Ça devait être une princesse. Est-ce que vous voyez la fille de tel émir, tel roi et travail? Non, tout confort et tout. Ça devait être une princesse, fille de la meilleure créature d'Allah. Mais elle travaille, le prophète. Donc elle a sollicité l'aide de son père, alayhi salatu wassalam. Et le prophète dit que, oh ma fille, je t'enseigne quelque chose qui te sera plus profitable. Je dis avant de dormir, 33, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Les savants disent à la lumière du hadith que le dhikrullah, c'est pas uniquement la spiritualité, c'est tout ça, hein, la spiritualité, le lien avec Allah, la lumière qui remplit le cœur, le iman qui augmente, le lien concret avec notre Seigneur, ziyadatul iman, mais c'est également quelque chose qui va t'apaiser psychologiquement et même physiquement. Et là, on n'aura pas de données, hein, il n'y a pas d'échographie ou pour voir que le muscle se détend quand tu fais le dhikrullah. Qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, c'est pas ce que nous recherchons. Nous avons la conviction sur ce texte que faire le dhikrullah avant de dormir, c'est quelque chose qui évacue le stress cumulé de la journée et même la fatigue physique. Donc tout ça, c'est ce que le dhikrullah nous apporte. Donc, il y avait un point que j'ai oublié. Il y avait une conclusion. Ça ne me revient pas, mais khair. Je pense qu'on a dit pas mal de choses assez consistantes. Donc, qu'Allah nous permet de rester ferme dans le dhikrullah. Oui, on parlait de la sakina qui s'installe dans le cœur. Et donnez de l'importance, donnez du temps à vos adhkar après la salah. Donnez du temps. C'est pas que quand l'imam se lève, il parle, tu te lèves aussi. Non, ne vous précipitez pas pour faire les sunnat et les nawafil. Si on a du temps, bien sûr. Mais ensuite, on doit partir, bien sûr, on fait les sunnat, c'est la priorité. Mais imaginez que vous avez du temps. Il y a des fois où c'est shaitan qui t'embête, qui te dit, finis, sorte. Comme si qu'il faut évacuer. Il y a quelque chose d'urgent. Tu vas dehors, il n'y a rien à faire. Vous trouvez deux camarades, ils parlent de n'importe quoi. Ils parlent d'Mbappé, vous savez, ça va. Et Kalam fardi. Sauf s'il vient à Marseille, c'est autre chose, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que Shaitan te fait sortir de Baytullah, il t'amène dehors pour te faire perdre ton temps. C'est une réalité. Reste dans la masjid. Ne va pas parler avec tes amis non plus. Reste de le dhikrullah. Un croyant, normalement, il doit rester, après salam alaykoum wa rahmatullah, au moins 10 ou 15 minutes, c'est le temps que ça prend pour faire les adhkar. Des 33, subhanallah, alhamdulillah, akbar, la ilaha illallah, wahidahu la sharika, là, ce qu'on appelle le quatrième calément. Ensuite, tu lis tes qul, tes mu'awidhat. On a largement dépassé le temps. Mais, des fois, je me dis que, comment est-ce qu'on peut être aussi inconscient à notre époque, surtout à notre époque où il y a tellement de choses mauvaises partout, comment est-ce qu'un croyant peut se permettre de ne pas se protéger 5 fois par jour? Le prophète nous enseigne de dire « Qu'Allah wahad, qu'on le falak, qu'on a l'abid nas » et avant ça, il y a tout le coup, c'est après chaque salat. Si tu ne le fais pas, ne t'étonne pas qu'il t'arrive des problèmes. Et quand c'est après le Maghrib, après le Fajr et le Maghrib, c'est 3-3-3. Ça, c'est Aham Shay. Ça, c'est l'enseignement de le Prophète sallam, de lequel il y a une lumière, de lequel il y a une protection pour nous, pour nos biens, pour notre santé, notre intégrité, ainsi de suite. Donc, Allah, dans la fermeté, nous permet de nous connecter au Dhikrullah, que ça devienne vraiment l'action qui nous apporte le plus grand bonheur. Vous savez, la joie, l'émancipation, on va dire le summum du bonheur, c'est quand tu trouves le bonheur dans le Dhikrullah. Quand tu trouves le bonheur de la dunya, c'est un échec. Parce que ton cœur s'est attaché à quelque chose qui est futile. Vous savez, vous éprouvez du bonheur dans quelque chose de dunya, mais c'est éphémère. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Vous êtes dans un restaurant, vous avez mangé un truc qui était exceptionnellement bon. Ah, franchement, Karila, c'était exceptionnel, tel repas, c'était très bon. Vous dites, ah, on va repartir. Vous repartez, vous n'aimez plus. C'est plus pareil. C'est pas que le cuisinier a raté ou autre chose. Ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois. D'accord? C'est que le dunya, c'est quelque chose qui est éphémère. Pas uniquement éphémère de le sens que tu meurs, tu le quittes, mais également de le plaisir, de le ressenti. De le ressenti en termes de plaisir. Ça t'apporte quelque chose de, rourour. C'est quelque chose de, d'éphémère. C'est un mirage. Et en finalité, il n'y a rien. Ça ne t'apporte rien. Dans le protège, il y a des gens qui cherchent le bonheur de le zina en pensant que, ma'oud billah. Alors que le bonheur, la sa'ada, si tu le trouves dans le dhikrullah, dans les a'ma, dans la lecture du Qur'an, c'est qu'Allah t'a bien guidé et t'a choisi. On va s'arrêter là, inshallah. Bon, mais du coup, pour Ramadan, ça va pas être possible, mais je pense que hier, mon ibakat a parlé un peu de ça. Il est à Imoui, j'ai entendu. Oui, écoutez le programme, écoute pas aussi. J'ai entendu les 5 points minutes, il parlait que de ça. D'accord? Et, il y aura d'autres a'imas qui vont le faire, qu'Allah Rabbul Izza nous permet de vivre ce mois de Ramadan. Hadith des 3 personnes, connaît les jeunes qui se concurrençaient d'accomplissement des bonnes actions. Il y en a un qui est mort dans le chemin d'Allah et 2 autres qui sont morts de mort naturelle des années après. Et on a vu en rêve que ceux qui étaient morts de mort naturelle des années après avaient un grade supérieur à celui qui était mort dans le chemin d'Allah. Hadith qu'on cite tous les ans. France Palais Soisil Rachid, écoute pas. Tous les ans, hadith rapporté par Mohamed qui est authentique. Le Prophète m'a dit que la personne qui a vécu plus longtemps, c'est quelqu'un qui a fait plus de Ramadan, plus de Salah. Donc vivre ces moments-là, c'est ça la consécration. D'où le verset wal asri, facile pour toi. Subhanallah, il va yad illa alladhina amanu wa amilus salihat. Donc l'être humain est de la perdition sauf ceux qui ont iman et qui accomplissent de bonnes actions jusqu'à la fin du verset. Et les mufassirs disent que la période, le mausam pour faire le plus de bonnes actions, c'est le mois de Ramadan. Donc vivre le Ramadan, c'est quelque chose qui t'enlève du khusr et qui te permet d'être parmi les élus d'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil izzati.